Anthropopop sur Radio BLV. Allez les anthropopotes, je vous embarque dans une aventure anthropologique à la découverte du monde et de sa diversité. Anthropopop, c'est l'émission d'anthropologie pour tous qui amène à relativiser nos propres visions du monde. Attention, vous n'en ressortirez pas indemne. Salut les anthropopotes! Qu'est-ce qui qualifie une science? Eh bien ça ou ses méthodes. L'anthropologie se caractérise par une méthode bien particulière, l'ethnographie. Étymologiquement, ethno pour peuple et graphie pour écrire. Donc c'est écrire sur les gens. C'est un art d'écrire et un art de décrire.
Simple, basique, ok.
Comme on l'a vu dans la première émission, toute théorie anthropologique part du terrain, du concret, de la vie réelle, et non d'un postulat idéal qui serait seulement le fruit d'une réflexion personnelle d'un chercheur, solo dans son petit cabinet qui navigue dans le monde des idées. Non, ça c'est de la spéculation, on ne triche pas en anthropologie. Et pourtant, au début de la discipline, on parlait d'anthropologue de cabinet, qui accumule des récits des voyageurs, ainsi que des objets, et avec ça, tranquillement et en toute impunité, il théorisait sur l'humain dans sa généralité. Et ça embêtait personne. Mais ça, c'était il y a bien bien longtemps. Quand on se réfère à l'ethnographie aujourd'hui, on parle aussi de méthode qualitative ou de méthode inductive. Alors j'explique. Ça veut dire qu'on part du concret, de multiples observations du réel pour construire des hypothèses ou des modèles scientifiques. L'anthropologue Philippe Descola, dans un entretien sur RFI, nous explique bien cela.
Vous notez dans plusieurs de vos livres que l'un des intérêts de votre travail, c'est de partir du singulier à la théorie.
Je pense que c'est caractéristique du travail de l'ethnographe, qui commence donc par une immersion de longue durée dans une population différente de celle où il a été lui-même élevé, qui dans certains cas apprend une langue qui n'est pas une langue qu'on enseigne même aux langues zo, et qui au fond essaye de se couler dans le monde, dans les valeurs de la société au sein duquel il a choisi de s'établir. Et les ébranlements conceptuels, les interrogations qui naissent au contact d'une population dont les modes de vie et les modes de pensée sont très différents des siens, incitent l'ethnographe à se poser des questions. D'abord sur des évidences qui pour lui paraissent établies depuis longtemps dans sa propre culture, et donc il opère un retour critique vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis du monde d'où il provient. Et puis, ça l'incite aussi à se poser des questions plus générales. Et dans mon cas, ça m'a incité à m'interroger sur une des grandes distinctions que l'Occident moderne a proposé au monde, à savoir l'opposition entre d'un côté le monde de la culture et de l'autre le monde de la nature, puisque dans la société où je m'étais établi, je ne rencontrais pas du tout cette opposition. Et c'est au fond le moteur de tout ce qui a suscité mes recherches par la suite, et qui naît encore une fois d'un étonnement. C'est pour ça que l'ethnographie, au-delà de ce qu'elle peut apporter en matière de description de modes de pensée, de modes de vie différents des nôtres, joue un rôle important aussi parce qu'elle est le premier moteur du décentrement.
On a donc compris, le chercheur produit ses données via une immersion dans un groupe social qu'il a pour objet d'analyse. Il va interagir avec les acteurs, partager, observer leurs pratiques quotidiennes, porter l'oreille à leurs discours, puis chercher à apprendre leur code, et parfois leur langage, que ce soit une langue usuelle ou professionnelle. Mais aussi découvrir leur logique, leurs perceptions, leurs habitudes. L'ethnographie est en quelque sorte un exercice de production de sens à travers les représentations des acteurs. C'est un engagement dans une compréhension de l'autre. Enquête de terrain et réflexion théorique s'entremêlent durant la recherche, mais le terrain prime. La problématique, c'est-à-dire la question de recherche qui va nous guider durant toute l'étude, se construit également sur le terrain, en perpétuelle relation avec l'objet de recherche. Chaque observation n'amène pas seulement des réponses, mais surtout de nouvelles interrogations, des nouvelles pistes à investiguer. parce que l'ethnographie, c'est surtout une épreuve du réel. Et ouais, c'est une des beautés de la méthode. On observe ce à quoi on n'a pas été préparé. Les données récoltées vont petit à petit modifier, détourner nos hypothèses. Et ça, seulement si on se laisse prendre et surprendre par le terrain. Une de mes profs disait que l'anthropologie est une science où le chercheur implique son corps même. Le terrain nous transforme, on n'en ressort pas indemne. On va bousculer notre mode de vie, se lever à des heures différentes pour suivre nos enquêtés, goûter peut-être de nouvelles choses, des plats typiques, peut-être s'habiller différemment. Pour Tim Ingold, anthropologue américain, l'ethnographie est un mouvement perpétuel fait de rencontres. Je le cite, « C'est comme pousser le bateau dans un monde encore non formé, un monde dans lequel les choses ne sont pas toutes faites mais toujours naissantes, sur le point d'émerger continuellement. Commandé non par le donné, mais par ce qui en passe d'être donné. Il faut être prêt à attendre. » Et l'anthropologue Nastasia Martin nous donne un bon exemple de cette épreuve qu'est le terrain dans une émission sur France Culture.
Je suis partie travailler chez une société de chasseurs-cueilleurs qui vit dans le nord-est de l'Alaska, dans un petit village qui s'appelle Fort Yukon. Et armée de toutes les lectures anthropologiques que j'avais faites, comme toute bonne doctorante avant de partir, je m'imaginais que j'allais travailler sur l'animisme, sur la cosmologie de ces chasseurs-cueilleurs, et donc sur leur manière de se relier à l'environnement, et donc sur l'animisme que j'imaginais être très présent dans ces régions. Et la première rencontre a été très 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 difficile, parce qu'en fait je me suis retrouvée dans un village complètement ruiné, jonché de débris de modernité, avec des gens qui étaient extrêmement touchés par les problématiques de drogue, d'alcoolisme et de dépression, tout simplement vraiment profonde. Et donc j'ai dû revenir un petit peu sur mon objectif de départ pour essayer de comprendre qu'est-ce qui était en train de se passer chez ces gens-là et à quoi ils étaient en train de faire face.
En fait, un terrain n'est jamais épuisé. Il y a toujours de quoi découvrir. Par exemple, pour mon mémoire, je me suis intéressée aux vignerons en appellation Saint-Joseph, Cornas et Saint-Péret. Je ne suis pas allée en me fixant a posteriori une problématique toute faite, car sinon je me serais restreinte à celle-ci. Et du coup, ça m'aurait empêché de saisir plein d'autres dimensions. Si je me dis, je veux comprendre les différences de pratiques et de représentations entre les vignerons et les vigneronnes, eh bien je vais partir sur le terrain en cherchant seulement ce que je veux trouver, et je vais me cantonner aux analyses de rapports de genre entre hommes et femmes. Alors qu'il y a plein d'autres choses à observer et comprendre. Les relations entre les anciens et les jeunes, les processus de transmission de savoir et savoir-faire, le feeling propre aux vignerons qui les amène à prendre la décision fondamentale des jours de vendange. Et c'est donc petit à petit, en interrogeant quelques vignerons, que je me suis intéressée à la notion de terroir, car il l'utilisait tout le temps. Et j'ai voulu comprendre qu'est-ce qu'il mettait derrière ce terme. Et pour ça, je suis pas allée fouiller des dicots spécial vin, lire tous les ouvrages d'historiens, de journalistes ou de critiques viticoles. Mais je suis partie avec mon carnet, mes questions, et j'ai interrogé les premiers concernés. Car c'est leur point de vue, leur vécu qui m'intéresse. Depuis tout à l'heure, je parle de terrain. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Ça renvoie à la fois à un lieu et à un objet de recherche. C'est là où on récolte les données. C'est un des mots clés en anthropologie. On fait son terrain, on revient du terrain, on fait son premier terrain. Bref, chaque anthropologue a son terrain de prédilection, qu'il pratique depuis des années, et il en devient un spécialiste. Bah ouais, on peut pas passer du coq à l'âne comme ça. Allez, aujourd'hui je m'intéresse aux fans de Bob l'éponge, demain aux mangeurs de pizza hawaïenne, et puis après-demain aux chasseurs de fantômes. Non, c'est pas possible de produire quelque chose de qualité comme ça. Par exemple, pour l'anthropologue Maurice Godelier, son terrain de prédilection, c'est chez les Barouya, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ou encore Nastasia Martin, qu'on vient d'écouter. Elle est spécialiste des peuples animistes. Et selon les caractéristiques de leur terrain, chacun développe une méthode particulière. C'est ça l'art du terrain. Ça s'apprend pas à l'école ou dans les livres, mais ça se pratique. Puis le terrain, c'est aussi une sorte d'initiation, un rite de passage pour le chercheur. Le premier terrain, c'est une entrée dans la profession. On fait preuve de nos capacités et on entre dans la communauté des anthropologues.
Anthropopop.
Ouvrez vos livres, page 394.
Radio Belvé.
Il dit silence, s'il vous plaît.
93.6.
Entends-toi, s'il te plaît, au petit con avec moi. Ok. So, next.
93.6.
Le terrain, il est évolutif. Il n'a pas de frontières figées ad vitam aeternam, mais il bouge selon les occasions, l'avancée de la recherche. Sur mon terrain, j'ai petit à petit constitué une liste d'informateurs. Je ne pouvais pas interroger tous les vignerons, hein, sinon j'y serais encore. Les choix, ils se sont faits en fonction de mon objet de recherche et selon les opportunités. Par exemple, en participant à des réunions entre syndicats, j'ai pu rencontrer des vignerons et par la suite leur demander un entretien. Puis c'est par le terrain que j'ai pu rencontrer d'autres acteurs du monde vitivinicole, qui ont une place importante et leurs propos, leur vision me semblaient pertinentes pour enrichir mes recherches. Par exemple, j'ai interrogé une conseillère viticole de la Chambre d'agriculture. J'ai aussi pu, petit à petit, m'ouvrir des portes et participer à des réunions plus informelles entre vignerons de la région. On se laisse imprégner par le terrain pour mieux comprendre ce nouvel environnement. En fait, on a tous déjà un peu fait ce genre d'expérience de s'immerger dans une autre culture, dans un autre contexte socioculturel. Comme par exemple Cadmerad dans Bienvenue chez les Ch'tis, qui petit à petit s'imprègne de la culture locale, de la langue, de la bouffe.
Alors qu'est-ce qu'on mange? C'est moi qui vous invite.
Oui, c'est pas les spécialités qui manquent. Hein.
Ah, ce qu'il y a de beau aussi, c'est le chicon au gratin.
Le chichon au gratin?
Non, chicon, c'est des grosses endives avec de la béchamel et puis du gratin. Ça, puis la tarte au maroilles aussi.
Ah oui.
Le maroilles, je connais.
Ah, faut qu'il goûte au carbonate. Ah, ouais. On peut pas partir d'ici sans qu'il goûte à la carbonate.
La quoi?
La carbonate. C'est comme le pot-au-feu, mais avec de la bière.
On va pas tout commander non plus.
Eh ben, on a qu'à prendre un petit peu de tout et puis on picore. Bon. Hein?
Bah voilà. Non, parce que c'est pas compliqué de parler de l'ustimie. Par exemple, nous autres, on dit pas, pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question, on dit...
Hein?
Hein?
Oh non, cherchez le 1, 2, 1, 2, 3.
Ouais, parce qu'il faut que ça sorte de l'eau, là.
Hein? Formidable.
Au début, quand on commence à parler de ch'ti, ou le picard, hein, on est cousin que le picard, faut juste rajouter le 1 à la fin de chaque phrase. Allez-y, essayez un peu pour voir.
J'ai compris.
Impeccable.
Ah, d'accord. Ah.
Ça y est, on parle de ch'timi.
Alors, il y a plusieurs méthodes, plusieurs outils pour aller à la pêche aux données, au matériel ethnographique, qui va nous permettre par la suite de construire une analyse. Si je m'intéresse aux vignerons de telle appellation, je vais pouvoir employer plusieurs méthodes. Des entretiens, des observations, faire une recherche historique, participer à des réunions formelles et informelles, interroger d'autres vignerons d'autres appellations pour voir s'il y a des différences, analyser les gestes dans les vignes, saisir les rapports à l'espace, faire une monographie des vignobles. Bref, je vous assure, la boîte à outils est conséquente. Il suffit de se laisser guider par le terrain pour saisir les opportunités et mettre en place les méthodes les plus adéquates. En fait, il n'y a pas une méthode universelle applicable par tous et toutes et de partout. Le travail de terrain prend autant de formes qu'il y a d'anthropologues et de projets de recherche. D'ailleurs, si vous ouvrez quelques thèses d'anthropologie, vous verrez une très large place accordée à la méthodologie et les choix de méthodes. Ouais, faut toujours qu'on se justifie, rien n'est laissé de côté. Pour revenir au fondement et résumer la méthode, c'est Bronislaw Malinowski, ethnologue du début du XXe siècle, qui est un des premiers à théoriser ce qu'on appelle l'observation participante. Pour lui, il y a trois fondements essentiels pour faire du terrain. Tout d'abord, il faut être familier avec la société et maîtriser les techniques d'enquête. Ce qui nécessite donc de vivre au sein de la société, étudier sur un temps long. Puis rassembler, utiliser et vérifier les données. En gros, on enquête, on transcrit, on décrit, on s'informe, on relie à des éléments théoriques et on interprète les données pour pouvoir construire une analyse pertinente donnant à voir ce qu'il se joue à un moment T, à tel endroit.
Simple, basique, ok.
On comprend donc, l'ethnographie se caractérise par la rencontre avec l'autre, les autres, que ce soit des communautés autochtones ou les voisins d'en face. Faire de l'ethnographie, c'est pratiquer un regard éloigné, pour reprendre Claude Lévi-Strauss. Avoir cette capacité d'à la fois prendre un recul sur les objets ou les sociétés étudiées, tout en étant familier. Parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Du coup, faut être sacrément ouvert d'esprit, se débarrasser de nos préconçus, de nos stéréotypes, et accepter de remettre en question nos propres manières de faire et de penser. Parce que le peuple autochtone ou mes voisins n'auront pas forcément les mêmes pratiques ou habitudes que moi. Et si je m'enferme dans des gros préjugés ou des conceptions xénophobes, bah ça va être difficile de faire quelque chose.
Je voudrais mettre fin à une rumeur qui persiste. Le racisme.
J'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de gens qui pratiquent.
Parce que pour être clair, le racisme, c'est quand tu flippes de ce qui est pas comme toi, et que tu vas chercher des bonnes raisons de flipper dans l'apparence physique, le contexte culturel, ou les ragots. Tu es prêt?
La musique nègre, c'est l'expression de l'âme des populations de race congoïde. Les blancs sont les caucasoïdes, les noirs d'Afrique sont les congoïdes.
Et attends, ça doit dater de 1800 et... Non, 2016. Et ce qui est vraiment dommage pour lui, c'est que pour produire de nouvelles connexions neuronales, c'est-à-dire évoluer, apprendre des trucs, devenir plus intelligent, eh ben, il faut se confronter à des choses nouvelles. Bah du coup, si tu passes ton temps à éviter les choses que tu connais pas, tu produis moins de connexions neuronales. Donc, pris comme ça, le racisme, ça rend con.
La rencontre avec l'altérité est donc au cœur de ce merveilleux processus. L'anthropologie construit sa connaissance là-dessus. Puis le chercheur, il n'est pas neutre. Il a un impact sur le réel des enquêtés. Imagine, demain, il y a un ethnologue qui vient faire une enquête dans ton entreprise, au sein de ton club sportif, de ton asso ou de ton école. Eh bien, tes collègues et toi-même, vous n'aurez sûrement pas les mêmes comportements habituels. Je veux dire, ils ont conscience qu'il y a quelqu'un qui les observe. Bref, les gens sont acteurs du monde social. Ils réagissent à cet intrus, l'ethnographe, là, avec son carnet de terrain, qui pose des questions, parfois bêtes, faut se le dire, qui écrit des pages et des pages de notes, qui observe.
Je hais les voyages et les explorateurs. Et voici que je m'apprête à raconter mes expéditions. Mais que de temps pour m'y résoudre. 15 ans ont passé depuis que j'ai quitté pour la dernière fois le Brésil et, pendant toutes ces années, j'ai souvent projeté d'entreprendre ce livre. Chaque fois, une sorte de honte et de dégoût m'en ont empêché. Et quoi ? Faut-il narrer par le menu tant de détails insipides, d'événements insignifiants ? L'aventure n'a pas de place dans la profession d'ethnographe, elle en est seulement une servitude. Elle pèse sur le travail, efficace du poids des semaines ou des mois perdus en chemin. Des heures oisives, pendant que l'informateur se dérobe, de la faim, de la fatigue, parfois de la maladie, et toujours de ces mille corvées qui rongent les jours en pure perte et réduisent la vie dangereuse au cœur de la forêt vierge à une imitation du service militaire. Qu'il faille tant d'efforts et de vaines dépenses pour atteindre l'objet de nos études ne confère aucun prix à ce qu'il faudrait plutôt considérer comme l'aspect négatif de notre métier. Les vérités que nous allons chercher si loin n'ont de valeur que dépouillées de cette gangue. On peut, certes, consacrer 6 mois de voyage, de privation et d'écœurante lassitude à la collecte, qui prendra quelques jours, parfois quelques heures, d'un mythe inédit, d'une règle de mariage nouvelle, d'une liste complète de noms claniques, mais cette scorie de la mémoire. À 5h30 du matin, nous entrions en rade de récifs, tandis que piaillaient les mouettes et qu'une flottille de marchands de fruits exotiques se pressait le long de la coque. Un si pauvre souvenir mérite-t-il que je lève la plume pour le fixer ?
Je hais les voyages et les explorateurs.
Mais c'est, je dirais, une expression polémique qui est tout de suite expliquée par la suite. Je voulais me désolidariser de cette vogue des voyages et des explorateurs, des conférences de la salle Pleyel, enfin on ne sait plus ce que c'est aujourd'hui, mais tout Paris courait chaque semaine salle Pleyel, et c'est grand la salle Pleyel, pour écouter quelqu'un qui venait raconter ses aventures au Tibet ou en Afrique centrale.
Ses récits de voyage.
Oui, ou ses récits de voyage. Et c'est de cela que je voulais me désolidariser. Je voulais montrer que pour l'ethnologue, le voyage n'est pas un but, que c'est un moyen indispensable, et que ce qui compte, ça n'est pas du tout le côté touristique, si vous voulez, c'est ce que nous rapportons de connaissances et d'informations.
C'était un extrait du livre « Triste tropique » de Claude Lévi-Strauss et une archivina qu'on vient d'entendre. Dans ses analyses, il met en avant la centralité de la notion d'altérité. Mais attention, il ne faut pas confondre tourisme et ethnologie. Pour comprendre cette notion d'altérité, il faut faire un petit détour historique. Comme on l'a vu à la première émission, l'anthropologie s'est développée durant les grandes découvertes, le colonialisme et l'expansion de l'Occident. Et les connaissances développées sur l'hôte, l'indigène, permettaient de mieux les contrôler et hiérarchiser les peuples. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la controverse de Valladolid, je vous explique en deux mots. Au XVIe, les Européens vont se poser la question fondamentale. Est-ce que les Indiens ont une âme ? Est-ce que ce sont de véritables humains comme nous ? Du coup, il y a un méga gros débat entre le représentant de l'Église, les commerçants, les représentants politiques. Bon, on se l'avoue, le gros enjeu à cette époque, c'est surtout de savoir si on peut les utiliser comme esclaves. Ben ouais, s'ils n'ont pas d'âme, si Dieu ne les a pas créés à leur image, ben let's go, le champ est libre, ça fait de la main-d'œuvre gratos. Après, il faut s'imaginer 500 ans en arrière. La rencontre entre ces différents peuples fut un choc énorme. C'est comme si aujourd'hui on faisait la rencontre avec des extraterrestres. Ou qu'un humain de la préhistoire ou du Moyen-Âge soit propulsé dans notre monde contemporain. Ça serait un gros choc. Tu sais, comme dans le film Les Visiteurs, où Godefroy de Montmirail et Jacouille se retrouvent projetés à notre époque. Leurs manières de faire sont totalement en décalage avec la réalité du présent.
C'est un gueux qui possède le château.
Quoi ? Un gueux ?
Quoi, un gueux ? Je vous en prie, Jean-Pierre aussi est un gueux, ça l'empêche pas d'être un mari sympa.
Lui, un gueux ! Oh, quoi ?
On peut plus manger, là, j'ai plus faim. Non, c'est vrai, là, c'est trop. Il me donne envie de vomir. T'as entendu ce que j'ai entendu ?
Non, j'ai entendu.
Non mais oh ! Crache dessus maintenant ! Tu le vois peut-être pas, ça ?
Les premiers récits des voyageurs du XVIe siècle y ont contribué, mais leurs descriptions ne disent finalement rien sur l'autre. mais bien plutôt des visions fantasmées, ethnocentrées. Soit c'était des discours du bon sauvage, heureux, libre, vivant tout nu dans la nature, soit le mauvais sauvage, le barbare, violent et proche de l'animalité. Ici se développe l'exotisme, comme discours des dominants. L'exotisme reste un point de vue, une construction. L'ananas est peut-être pour une grande partie d'entre nous un fruit exotique, mais pas pour les Brésiliens ou les Costaricains. L'exotisme est un processus qui transforme du lointain en ailleurs et du différent en autre. Et quoi de mieux que l'émission Rendez-vous en Terre Connue pour perpétuer cet exotisme, le mythe du bon sauvage qui fait un avec la nature, qui n'est pas encore souillé par la civilisation.
Je suis stupéfaite, j'ai l'impression d'être dans Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux, j'ai l'impression qu'il y a de la magie partout.
J'ai l'impression de rêver en fait.
Ah ouais, c'est incroyable. J'ai l'impression que ça n'existe pas vraiment. C'est comme si on était dans un livre d'images. On voit pas grand chose, mais on distingue quand même ce qui ressemblera à
des tipis d'Indiens.
À des tipis d'Indiens.
Ned, il y a des messieurs sur des chevaux ou des ânes là.
Voici Amadongo et Yama. Ils sont cousins. Tous les deux sont nés et ont grandi ici, au pays d'Ogon, sur le plateau de la falaise de Bandiagara. Ils ont été désignés par le chef de leur clan pour venir nous chercher et nous guider jusqu'à leur village, un village qu'ils ont quitté à l'aube. Après 5 heures de marche, ils apparaissent enfin. Il fait déjà 45 degrés.
Après la mise en scène de la rencontre, c'est la mise en scène de la découverte de la culture de l'autre, qui nous paraît si étrange. Ah, et puis au niveau moral, c'est notre petit confort qui est pointé du doigt.
Il est où le lit? Ils sont où les lits? En fait, je cherche depuis tout à l'heure.
Le lit est juste ici. C'est là que vous allez dormir. On va tous cuisiner et vivre dans cette maison.
Mais vous serez les seuls à dormir ici. Nous, on ira ailleurs, dans une autre maison.
Ah, Frédéric et moi, on va dormir ici?
Oui, vous allez dormir ici tous les deux.
T'inquiète pas, t'es fatigué, tu dormiras très bien.
Si t'es pas assez fatigué, on prend les machettes et on va chercher du bois avec les lamas, parce que je te sens triste, là.
Tu n'es pas triste du tout. Comment on explique, comment on traduit en quechua, on est au bout du rouleau?
Et puis on compte sur vous pour nourrir les cochons d'Inde.
Sur la tête de ma mère, il y a des cochons d'Inde sous le lit.
On élève les cochons d'Inde pour les manger.
Vous mangez les cochons d'Inde?
Oui, vous les mangez pas, vous?
Non. Là où nous habitons, les cochons d'Inde, c'est on les offre aux enfants...
Comme animal de compagnie.
Comme un animal de compagnie. Et on les aime bien, et c'est triste. C'est comme pour manger du cochon d'Inde, pour nous, c'est comme manger du dauphin.
Mais bien sûr, aujourd'hui, dans notre monde globalisé et occidentalisé, l'altérité radicale n'existe presque plus. On parle maintenant de terrain du proche. Ça peut être l'association locale de peinture, les livreurs Uber Eats ou Deliveroo, les députés à l'Assemblée nationale, les promeneurs de chiens au bord du Rhône, mais ça peut être aussi dans un lieu particulier, un bar associatif, une aire d'autoroute, un musée. Ces espaces-là peuvent être familiers pour le chercheur. Il doit donc recalibrer son regard et développer ce fameux regard éloigné de Claude Lévi-Strauss, afin de prendre une certaine distance. Sinon, il ne va pas pouvoir repérer tous les petits éléments, les petits faits, gestes, discours qui vont de soi. Le fameux banal dont nous parlait Philippe Hameau à la première émission. En fait, l'expérience de l'autre, de l'altérité, on l'a tous déjà un peu faite. C'est par cette rencontre qu'on peut saisir des spécificités culturelles, des modes de vie bien particuliers. Et qui mieux que des étrangers, grandis dans une éducation autre que chez nous, pour pointer nos spécificités et par là même soulever les leurs.
On a le droit ici en France d'être très direct par rapport aux États-Unis. Par exemple, si tu demandes à ton ami aux États-Unis, c'est comment ma nouvelle coupe de cheveux, elle va te répondre sûrement « Oh, it's amazing !» C'est vraiment trop bien, enfin j'adore. Alors qu'en France, si ça ne va pas, tes amis vont te le dire, qu'est-ce que t'as pris? Enfin, pourquoi t'as fait ça?
Le cliché que j'ai sur les Français, c'est que tous les Français sont vraiment, vraiment romantiques. Et alors, c'était vrai, en fait. Parce qu'au Japon, on ne voit jamais des couples qui s'embrassent dans la rue, qui font un grand câlin. C'est pas vraiment quelque chose qui est bien vu au Japon.
Ça demande aussi un gros travail sur soi, être capable de réflexivité, de prendre en considération notre propre subjectivité, qui forcément a un impact dans nos démarches. Si je suis un chercheur, un homme blanc, et je travaille dans un groupe de femmes racisées, sur le racisme et le sexisme, j'aurai peut-être du mal à trouver et acquérir leur confiance, et donc avoir accès à tous leurs discours et toutes leurs pratiques. Du coup, la vérité peut être biaisée, car on est ce que l'on est. Il faut alors essayer de trouver des points communs. Par exemple, personnellement, sur mon terrain, je me suis retrouvée la plupart du temps face à des hommes, plus âgés, plus grands, pas forcément au courant de l'anthropologie. J'ai donc joué la carte de fille et petite fille de vigneron pour mieux me faire accepter et atteindre une certaine légitimité. Bah oui, c'est important, parce que finalement, on est qui pour aller embêter les gens avec nos questions ? Voilà en quelques phrases la méthode. Longtemps pratiquée par les Occidentaux, l'ethnographie a été considérée comme un outil du colonialisme, un moyen pour mieux connaître ses autres. Puis c'est aussi devenu un outil au service des projets de développement économique et sociaux dans les pays dits du tiers-monde ou du Sud. Et si on inversait le truc ? Des ethnologues de ces pays venaient nous étudier. Jean Rouch, dans son film Petit à Petit, sorti en 1971, avait mis en scène Damouré, un dirigeant d'une société import-export au Niger qui veut construire un grand building dans son village. Il part donc à Paris pour voir comment on vit dans des maisons à étages. Auprès des Parisiens, il va découvrir des façons de penser et de vivre assez bizarres.
Monsieur, s'il vous plaît, je fais de l'ethnographie pour la télé. Je peux prendre vos mesures ?
Très gentil. Vous êtes un bon garçon. Attention, ça ne fait pas beaucoup mal.
Pourquoi vous faites ça ?
Eh bien, je fais ça surtout c'est parce que les Parisiens ne sont pas sous-alimentés. C'est pour voir le poids, monsieur.
Ah bon ?
Voilà. 32, 42, 27, 54, 18, 17, 16. Mais en réalité, c'est les Parisiens. Ils ne sont pas beaux, ils sont trop... D'abord, ils sont trop petits, puis ils ne sont pas tellement gros. Ils sont vilains, avec des grosses jambes. Vous êtes de Paris ?
Oui.
Vos parents aussi ?
Oui, mon père et ma mère.
Ah bon, est-ce que je peux voir vos dents un peu, s'il vous plaît ?
Mes dents ? Pourquoi ?
Oui. Je suis ethnologue, alors je vois les dents. Il me reste juste les dents d'une demoiselle pour avoir mon diplôme. Alors je crois que vous n'allez pas refuser.
Non, si vous voulez.
Vous voulez, je vais voir le nombre des dents foutues. Oh là là. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 10. 10 dents foutues.
Vous croyez que c'est grave ?
Oh non, c'est pas grave. C'est absolument rien du tout.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'aura donné envie de pratiquer l'ethnographie et de développer ce regard éloigné. Un grand merci à ma maman pour la lecture du texte de Claude Lévi-Strauss et merci à la technique de Radio BLV, toujours au top. Pour les extraits non cités, on a écouté le Média Brut et la chaîne YouTube Tout le monde s'en fout. Pour les sources et avoir plus d'infos, je t'invite à checker le site de l'émission et n'hésite pas à me contacter. On se retrouve le mois prochain pour aborder un concept central dans nos sociétés, le travail. Alors, à la prochaine les anthropopotes.